Avant de démarrer cet épisode, je voulais remercier notre premier sponsor qui permet de redonner vie à ce podcast, c'est Eymundo, une assurance en ligne de qualité que j'apprécie beaucoup parce que elle t'accompagne tout au long de ton voyage grâce à une application et un service d'assistance réactif. Ils sont disponibles par téléphone 24 heures sur 24 et surtout parce qu'avec cette assurance, il n'y a pas de petites lettres, ni de chichi, tout est simple, rapide et sans processus administratif interminable pour le remboursement. Et tu me connais, je déteste l'administratif, donc si tu pars bientôt en voyage, va faire un tour sur leur site Heymundo.fr, Heymundo.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour.
Regarde-moi ça!
J'ai l'impression de faire la dégustation.
Ouh! Ça, c'est de la vie! Ah, c'est magique, cet endroit!
C'est absolument dément.
Et le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça la vie. Numéro.
Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, on va aborder une thématique de voyage qu'on n'a pas encore vraiment abordée. C'est le service civique. Et en plus, dans une région dont on n'a jamais vraiment parlé non plus, c'est Charleston. Et c'est Ambre qui est là pour nous en parler aujourd'hui. Ambre, comment ça va ?
Ça va super, et toi ?
Écoute, ça va très très bien. Deux questions qui tout de suite viennent à l'esprit peut-être aussi des gens comme moi. De 1, où est-ce que c'est Charleston ? Et de 2, c'est quoi le service civique ?
Alors, Charleston, c'est sur la côte est des États-Unis, entre New York et la Floride, c'est en Caroline du Sud.
Ok, et du coup, le service civique, les subtilités, qu'est-ce que c'est ?
Donc, le service civique, c'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général qui dure entre 6 à 12 mois, et il est vraiment ouvert aux jeunes entre 16 et 25 ans, 30 ans si on a un handicap. Et on n'a pas besoin de diplôme, on est indemnisé, ça s'effectue soit en France, soit à l'étranger, et c'est vraiment une superbe expérience.
Alors, là tu m'as sorti la petite définition du DICO, ou peut-être même le paragraphe de présentation qu'il y avait sur le site du service civique.
Voilà, c'est tout simple.
En gros c'est ça, mais qu'est-ce que c'est dans les faits ? C'est-à-dire, tu dis c'est du bénévolat, c'est-à-dire tu t'inscris pour faire un bénévolat dans quoi ? Dans quel type de structure ? Qu'est-ce que tu fais ? Ça dure combien de temps, tu m'as dit ? Et surtout, tu dis que tu es en plus, tu as des dédommagements, enfin tu as des indemnités, pardon. C'est de l'ordre de combien ? Dis-nous tout.
Yes. Donc en fait, c'est une mission que tu dois remplir, donc soit sur 12 mois, 7 mois, 8 mois, ça dépend de ta durée de ton service civique.
Ah, tu peux choisir.
Dans différents domaines d'action, solidarité, culture, loisirs, éducation, il y a environnement, il y a aussi de la santé, du sport. Enfin, je crois en tout, tu as 11 domaines d'action.
Ok.
Et du coup, tu choisis. Et en fait, le moyen le plus simple à faire, c'est tu vas sur le site du service civique. Et très souvent, tu as des organismes qui proposent déjà une mission, donc soit en santé, soit en sport, soit ouais. En ça. Et donc, toi, tu choisis selon le domaine d'action que tu veux faire. Et ben, tu t'inscris sur l'annonce.
Ouais.
Tu mets ta lettre de motivation. Enfin, voilà, en fait. Et après, tu es choisi par l'organisme qui me dit « Ok, on te veut ».
Et attends, mais c'est-à-dire que c'est comme si… Ouais, c'est des annonces de demandes d'organismes. Genre, il y a un organisme aux quatre coins du monde, parce que ça se fait un peu partout dans le monde, c'est ça ?
Ça se fait particulièrement en Europe.
Okay.
Donc, ouais, en Europe, il y en a vraiment pas mal. En France, il y en a beaucoup aussi.
Ouais.
Moi, ce que j'ai fait pour les États-Unis, c'est que j'ai créé mon propre service civique, en fait. Et après, je suis allée proposer à la mairie de Charleston. Je vais t'expliquer pourquoi et comment. Et voilà.
Trop cool. T'es en train de me dire que l'annonce à laquelle t'as postulé sur le site, c'était la tienne ?
Bah, en fait, moi, j'ai pas
c'est
fait
fort.
Par le site.
Si c'est ça, c'est fort.
J'ai pas fait par le site.
D'accord.
Je suis passée avec, en fait, à Flair, donc là où j'habite, on a une MJC, c'est la maison des jeunes et de la, enfin, de la ouais. jeunesse et de la culture.
Ouais.
Et en gros, tu as une personne qui s'occupe de tout ce qui est service civique, parce que la MJC accueille des personnes en service civique.
Ah.
Et donc, okay. Du coup, c'était plus simple de travailler avec eux. Donc, j'ai travaillé avec eux pour préparer tout mon service civique.
Ouais.
Donc, j'ai pas fait toute seule, tu vois. Tout ce qui était en gros paperasse de service civique, j'ai pas fait. J'étais là pour accompagner, mais j'étais pas.
Ah.
J'ai rien fait.
Alors, ça, c'est très intéressant, Ambre, parce que je pense que moi, comme beaucoup de gens, on déteste, il y a une vraie haine, hein, il y a un vrai rejet, un dégoût de l'administratif français qui est d'une complexité impossible, mais
ah
qui,
oui.
qui est quand même surmontable. Quand
si je reprends le process, c'est que tu vas sur le site du service civique, qui est quoi? C'est servicecivique.fr, -fr, un truc comme ça.
J'ai plusieurs sites. Il y a servicecivique.gouv.fr.
Ouais.
Donc ça, c'est un, on va dire le basique.
Ouais.
Sinon, tu as le corps européen de solidarité. Ça, c'est plus pour partir toi à l'étranger, enfin en Europe.
Ok. Donc,
si tu veux partir en Allemagne, tu vas plutôt passer par là.
Ouais.
Ou sinon, tu as le servicevolontaire.fr. C'est trois sites-là qu'il faut que tu
regardes. Et ça, c'est à chaque fois officiel. C'est pas des trucs. C'est gratuit. Tu postules, oui. Tu mets ton CV et après, potentiellement, c'est. Peut-être toi, t'as pas fait le truc classique, mais le truc classique, c'est quoi? C'est que t'as un échange Skype, qu'on voit un peu, que les gens ils voient un peu qui tu es, ce que tu veux faire. C'est ça un peu le process?
Donc, du coup, tu t'inscris, tu mets ton CV, ta lettre de motivation, ouais. Et après, c'est l'organisme qui va choisir. Donc là, je pense que oui, tu as une interview, juste comme ça, pour te démarquer des autres candidats. Et voilà, et après, tu es pris ou pas pris selon, selon ce que tu as fait. Enfin, voilà.
Là, parce que là, j'ai l'impression que c'est quand tu es pris, c'est là où l'aventure, où la galère administrative commence. Et c'est quoi alors ça, quand je dis galère administrative, en gros, tu es. T'as besoin de faire quoi? T'as besoin de remplir un espèce de dossier de 10 pages, c'est tout? Et après, c'est bon? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses à faire après?
Ah non, moi, ça a été un contrat, c'est tout.
Ah, ok, c'est un contrat que tu lis. Il t'envoie un contrat bien spécifique que tu lis et que tu signes, c'est ça?
C'est ça. C'est vraiment, en fait, c'est un peu comme c'est vraiment un job, tu vois.
Ouais.
Plutôt cool parce que t'es avec des jeunes et tout, donc franchement, c'est bien.
Ah, ok.
Tu vois, t'es indemnisé, t'as même des vacances et tu cotises même pour ta retraite.
Ah oui, d'accord.
Enfin, c'est vraiment genre un truc génial, tu vois.
C'est quoi le quand tu dis indemnité, c'est combien? Et qui te paye? C'est la structure qui t'accueille ou c'est finalement l'État qui prend en charge cette expérience?
Les deux. Ah. En gros, si tu veux, t'es en gros payé à peu près à hauteur de 600-700 euros par mois.
Ok.
Donc, ce qui est plutôt cool. Et du coup, l'État, là, moi, sur mon bulletin de salaire... De la part de l'État, j'ai 522 euros.
Ouais.
Et l'organisme d'accueil te paye en gros 107 euros, quelque chose comme ça.
Ah ouais, donc c'est vraiment l'État qui finance ça, quoi, qui stimule cette initiative.
Ouais, totalement.
Enfin, tu vois, moi la question qui me vient, c'est. Il y a du bénévolat. Aujourd'hui, on le sait, tu peux aller faire du bénévolat dans des écoles, dans des fermes. Ça se fait beaucoup avec le woofing. Tu peux aussi faire être garçon ou fille au père, que j'ai fait quand j'étais plus jeune. D'ailleurs, aux États-Unis. Pourquoi le service civique? Pourquoi c'est ça que toi, t'as choisi?
En fait, quand j'étais au début de ma terminale, j'avais envie de faire une pause juste après ma terminale avant de reprendre mes études parce que j'ai que 19 ans et j'ai eu mon bac l'année dernière, donc je voulais vraiment faire une pause entre mes deux années et j'ai cherché plein de moyens, tu vois, de pouvoir partir à l'étranger et tout, particulièrement aux États-Unis parce que j'avais déjà eu deux expériences en camp d'été là-bas et c'était juste génial.
Ouais.
Et du coup j'avais vraiment envie de découvrir un peu plus la culture. Et j'ai regardé plein de choses, donc pour aller dans des lycées, au pair, ça ne me disait pas vraiment.
pas trop, t'aimais pas trop les gamins. Non, merci, c'est pas
si,
mon délire.
Si.
T'as le droit. Attends, on te juge pas, Ambre, on te juge pas, il n'y a pas de souci.
voilà, j'avais... Enfin, tu vois, les lycées, c'est ultra cher, ou les collèges, c'est ultra cher. Enfin, les universités, là-bas, c'est ultra cher. Donc j'ai fait, pourquoi j'ai dépensé genre 10 000 à 20 000 balles dans une école cette année? Alors qu'il y a peut-être d'autres moyens et tout. Et
alors
en fait,
tu peux en gagner 6 000 ou 7 000, finalement. Parce que, parce que 700 balles fois 12, ça fait à peu près ça, en fait.
C'est ça. Du coup, en fait, ma mère, elle est partie à la MJC. Elle a demandé ce qui était possible de faire pour pouvoir partir à l'étranger et tout. Et la directrice, elle a dit, mais attends, il y a peut-être un projet à faire avec la ville de Charleston. Il faut savoir que Flair... et Charleston sont liés depuis les années 40, donc juste après la guerre.
Ah ouais.
Ouais,
c'est un jumelage, c'est quoi? Alors déjà, Flair, c'est un nom très stylé, mais où est-ce que c'est?
C'est en Normandie, dans l'Orne.
Ah, ok, d'accord. Et j'imagine que c'est après la guerre par rapport aux soldats et au jumelage de l'après-guerre, c'est peut-être ça?
C'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que t'as un soldat de Charleston voulant revenir vers la mer et tout... pour prendre les bateaux et revenir aux États-Unis, il est passé dans Flair. Et sauf que Flair, elle a été détruite à quasiment 80% avec les bombardements.
Ouais.
Du coup, il a vu en fait tous les des enfants, tu sais, dans les rues, mal habillés. Enfin, ça mangeait, ils mangeaient pas beaucoup, tout ça. Donc, il s'est
Bien
dit, mais
sûr.
en fait, on aide, tu vois. Du coup, il est retourné à Charleston. Il est allé voir le maire Morrison à cette époque, et il lui a dit, bah voilà, il se passe ça en France, et je pense qu'on pourrait aider. Et du coup, bah, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un projet de Common Cause et le Medway Plan qui a été créé. Et tu as un bateau qui est parti avec 115 tonnes de
Ah
matériel.
ouais.
Ils sont ramenés même une Chevrolet pour les sœurs de Flair.
Pour les sœurs,
Avec
pour les bonnes sœurs. Ah putain, ça avait la sec là, les bonnes sœurs.
ouais. Il y avait aussi un petit peu de nourriture et puis quelques vêtements, tu vois. Donc c'était intéressant. Même les citoyens de Charleston, en fait, ils allaient sur le marché de Charleston et ils pouvaient acheter des immenses boîtes
Ah ouais,
où
ils ont vraiment créé un lien de cohésion et de solidarité vis-à-vis de la ville de Flers en Normandie,
c'est ça.
d'accord.
C'est ça. Et ça a été plusieurs villes en France, mais Flers a été vachement, avec Charleston, ça a été très fort.
Ouais.
Et en gros, bah, au fur et à mesure, tu vois, ça a commencé à. Enfin, les liens se sont réduits. Et
Bien
après,
sûr.
il n'y avait plus de lien entre les deux villes,
Ouais.
jusqu'à il y a 10 ans, où tu as une personne de Charleston qui visite la Normandie et tout avec sa femme. Et il arrive à Flers et il voit sur Flers, place Charleston. Fait, mais c'est bizarre, pourquoi il y a une place qui s'appelle Charleston sur Flers? Enfin,
Ouais.
pourquoi ça? Donc, du coup, il allait voir le maire de Flers et le maire de Flers lui a tout raconté. Et donc, du coup, le gars de Charleston, il a fait, oh, mais on vous a oublié, enfin, on ne connaît pas cette partie de l'histoire. Et le maire de Flers a dit, bah, nous, non, on ne vous a pas oublié. Et du coup, quand ce monsieur est retourné aux États-Unis, il est allé voir le maire de Charleston et il a dit, mais il y a quelque chose à faire. Et donc là, ils sont en pleine délégation à créer un jumelage, en fait. Donc le jumelage
Ah
n'est pas encore
yes.
fait, mais il est en train de se créer.
Ok, cool. Et du coup, forcément, vu l'histoire et l'attachement qu'il y a entre ces deux villes, enfin, ça allait te faciliter l'accès à un stage, à un visa, à tout ça, en fait, du coup, via cette ville précisément. Et est-ce que ça, du coup, facilitait pour le coup? Est-ce que je sais pas, j'imagine que pour tous les gens qui nous écoutent, chaque ville doit être jumelée à peu près avec une autre ville dans le monde, ou en tout cas, chaque grande ville. Donc, en fait, et c'est quelque chose que on voit tout le temps sur les panneaux quand t'arrives en bagnole. Et à part te faire rire l'espace de 20 secondes, dire, ah ok, c'est jumelé avec telle ville, ok, avec Tombouctou. On se dit jamais qu'en fait, il suffit d'aller à la mairie, qu'il y a peut-être des raccourcis, des passe-droits, des privilèges que tu peux qu'entre ces deux villes, tu peux t'octroyer. Donc c'est intéressant. Du coup, est-ce que toi, ça t'a facilité cette aventure et les paperasses?
Totalement,
Ah ouais, ok.
totalement. En fait, si tu veux, donc après que ma mère soit allée à la MJC et dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire avec Charleston, pourquoi pas faire un service civique et tout, on a su que la délégation de Charleston, donc des gens de Charleston, venait à une fête qui a à Flair tous les ans en octobre, tu vois, début octobre.
Nice. Ah ouais.
Et ma mère m'a fait, bon, bah, on y va et on va voir. Et donc, du coup, c'est ce qu'on a fait. On est allé à la Monty, donc ça s'appelle comme ça la fête. Et en fait, on est allé
J'aurais
voir.
payé l'apéro. Je les ai un petit peu fait picoler. Les mecs m'ont signé mon contrat un peu ivre-mort, mais c'est bon. Ça, en 5 minutes, c'était plié, quoi.
Ouais, c'est ça. Non, mais on en a parlé et tout, un peu tous ensemble. J'ai pu rencontrer le maire de Charleston. Donc, en fait, si tu veux, tu avais la délégation de Charleston et la délégation de Flair. Il y avait tous les élus, enfin,
Ah, t'as été
tu vois,
tapé
genre.
direct dans le haut du panier, quoi. C'est.
C'est ça. Vraiment, gros coup de chance. Et donc, du coup, on a
Non, bien
validé, on va
provoqué.
dire, à l'oral. Et après, il y a eu toute la paperasse à faire, tu vois, qui a commencé. Et donc, ça a duré un peu toute l'année. Et en juin, j'ai su vraiment que je partais.
Attends,
Enfin,
ça a
voilà.
été toute la paperasse en un an. Non, tu plaisantes. C'était quoi quand tu parles de la paperasse? Il y a
Non,
quoi qui a.
en soi, c'était pour voir surtout avec l'organisme
Ah.
là-bas qui pouvait m'accueillir, où est-ce que je pouvais loger,
D'accord.
comment j'allais être payée. Enfin, c'était ça. En soi, ça aurait pu être fait plus facilement, mais tu vois, vu que c'était aussi géré par la mairie de Charleston, enfin, ils ont aussi pas mal de choses à faire, tu vois. Donc, c'est pour ça que ça a
J'imagine.
pris aussi pas mal de temps, tout ça.
Ok.
Mais ouais.
Et du coup, c'est bête, mais quand tu vas aux États-Unis, t'as un type de visa particulier pour ça, ou c'est un visa tourisme? Mais non, si tu dois travailler, c'est un autre style de visa, j'imagine. C'était quoi?
Alors, je t'avoue que c'était un petit peu galère de choisir le bon visa. On a quand
Ah.
même appelé pas mal l'ambassade et tout pour
Ok.
voir, pour leur dire que,
Ouais.
bah voilà quoi. Du coup, en fait, je suis partie avec un visa B1, B2, qui est
B1,
un visa
B2.
B1,
Touché. Coulé.
B2. C'est affaires tourisme. Donc, je suis
Ok.
partie avec ce visa-là. Il peut durer jusqu'à un an.
Ah, ok. Oh, c'est bon à savoir. B1, B2 aux États-Unis. Ok.
Ouais, c'est ça. Par
Affaire
contre,
tout.
t'as pas le droit de travailler là-bas. ils peuvent, enfin l'État, enfin les États-Unis ne peuvent pas te payer. Mais du coup, moi, ça
Ah.
m'allait parce que j'étais payée majoritairement par la France.
Ok. Donc pour un service
Donc
civique,
ça, c'est
c'est
bien.
le visa qui va bien. Et alors, j'aimerais qu'on
C'est
en
ça.
arrive à qu'est-ce que t'as fait? Parce que ok, tu les as arnaqués, tu les as fait signer un contrat quand ils étaient un peu bourrés. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce contrat? Qu'est-ce que tu devais faire?
En fait, si tu veux, je suis partie, je devais rester 7 mois à Charleston pour travailler dans des missions de culture et éducation. Donc, en éducation, c'était plus aller dans les écoles pour pouvoir parler bah, de mon projet, de ce que je faisais, enfin, qu'est-ce que la France, comment on peut partir à l'étranger assez facilement enfin, sans vraiment payer hyper cher, tu vois. Parce que même
Bien
des
sûr.
Américains
Ouais.
peuvent partir en service civique en France, tu vois.
Ah, ok.
Ça marche partout. Enfin, la MJC, tu vois, elle accueille des jeunes de Roumanie, d'Espagne, d'Irlande, de Turquie. Enfin, c'est vraiment impressionnant, tu vois.
C'est génial. Non, mais tu vois, c'est
Ouais.
il y a eu pas mal la tendance des garçons et filles au pair. Après, il y a eu pas mal la tendance aussi, tu sais, des PVT. Qui permet de, tu vois, bah, d'être peut-être un peu plus libre, mais des fois, bon, c'est pas toujours évident de trouver du job, et surtout, c'est pas le même but. Et c'est vrai, service civique, ce que j'entends et ce que j'en ressens, c'est que finalement, tu t'engages dans un projet sur la durée, et en plus, t'as une certaine sécurité, parce que ben, tout est à peu près organisé en amont, donc pour certains profils, ça peut être vraiment super intéressant, en fait. Et je savais pas qu'il y c'était autant développé. Attention, t'es peut-être en train de relancer une mode, hein, attention, en bas, à force
Ce
d'évoluer. Mais du coup,
serait bien parce que c'est bien pour partir. Enfin, c'est une des meilleures solutions pour assez peu dépenser d'argent et avoir une superbe expérience.
mais t'étais logé où du coup?
Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais logée dans une famille. Donc, c'était une des personnes de la délégation que j'ai rencontrée et du coup, elle m'a hébergée. Normalement, ça devait être 3 mois au début, tu vois. Et vu qu'on s'est bien entendu, bah, ça a été rallongé.
Ah ouais,
Donc, en fait, je suis restée avec eux et
t'as
c'est.
squatté chez les patrons quoi.
Voilà, c'est ça. Non, mais c'est devenu un peu ma deuxième famille et c'est juste super, tu vois.
Et non mais ça c'est tu vois c'est le genre de belle expérience qui marque et qu'on revienne sur le service civique en tant que tel pour finir là-dessus c'est quoi les horaires t'as un job normal donc du coup c'est comme si tu vas à 9h à 17h au boulot c'est quoi?
Ça dépend en fait de ton organisme qui décide. Souvent, c'est 24 heures de travail. Donc moi,
À
vu que là,
24
j'étais
heures
un
dans la semaine.
peu.
OK.
Ouais, 24 heures par semaine. Donc, moi, j'étais un peu toute seule, entre guillemets, aux États-Unis. Normalement, tu es souvent dans une structure qui a l'habitude d'avoir des services civiques et voilà quoi. Moi,
Ouais.
j'étais toute seule. Et du coup, je travaillais sur mes missions de culture et d'éducation un peu toute seule. Et en plus de ça, ce qui était vraiment super, c'est que j'ai pu faire des stages à l'office du tourisme de Charleston côté business
Ouais.
et à la mairie de Charleston dans la partie tourisme et habitabilité. Donc, j'ai appris énormément de choses, tu vois.
Ah, est-ce que pour finir un peu cette partie technique administrative pro, ça t'a donné en fait le fait de vivre cette aventure? Et d'être dans une, tu vois, dans des circonstances professionnelles, environnement professionnel, est-ce que ça t'a orienté sur ce que tu veux faire plus tard? Parce que j'imagine quand tu as 19 ans, et c'était le cas déjà depuis, enfin, de toutes les générations, mais c'est le cas, j'ai l'impression, encore plus maintenant, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Avant, c'est parce qu'on y a rien qui nous, enfin, on savait pas trop, puis il n'y avait pas 50 choix, donc on choisissait un peu par dépit. Maintenant, c'est qu'il y a trop de choix. Toi, ça t'a aidé ou tu savais déjà ce que tu voulais faire?
Totalement, c'est mon gros problème.
Ah,
C'est qu'en
ok.
fait, j'avais plusieurs idées à la fin, enfin à la sortie de mon bac. Je me disais, bon, bah, j'aimerais bien partir sur Sciences Po, j'aime bien le tourisme, j'aime bien tout ce qui est com. Donc j'étais un peu
Très
perdue,
bien
tu
faire
vois.
une boulangerie
Et.
aussi, CAP boulangerie. En fait, t'étais vraiment dans. Tu savais absolument pas ce que tu voulais faire.
Je savais la zone, tu vois, parce qu'en soi, c'est à peu près lié, mais je
Ouais.
savais pas quoi exactement, tu vois. Genre. Enfin, ton métier de blogueur voyageur, ça m'a toujours fait rêver et je me dis peut-être qu'après mes études, je pourrais tirer faire ça. Mais en soi, ça m'a réduit mon champ.
C'est pas un
Donc là,
métier,
je
hein.
sais.
C'est une conséquence. C'est une conséquence d'une activité qui se transforme en activité. Mais tu peux en faire un métier, c'est sûr. Tu sais, tu peux en faire un métier. Et du coup, aujourd'hui, t'en es où? Tu sais un peu ce que tu veux faire ou pas?
Ouais, un peu plus. Après là, du coup, j'ai mes résultats de Parcoursup dans 10 jours à peu près. Et j'hésite entre Sciences Po, Lyon avec des relations internationales et choses comme ça,
Ouais.
ou une école de tourisme. Donc
Ah
voilà,
ouais, c'est quand même
c'est
pas le
un
même
peu.
game. C'est quand même pas le même game, tu vois. c'est quand même, t'as un truc qui est quand même dans l'élitisme, dans le dépassement de soi professionnel, et l'autre qui est quand même sur des jobs un peu plus humains, terre à terre, enfin day to day, pour parler un petit peu comme tu parlais à Charleston. En quoi ça t'a aidé le service civique? Qu'est-ce qui t'a fait aider? C'est ça, moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens comprennent ce qu'ils peuvent en retirer s'ils vont le faire, tu vois. Qu'est-ce qui a insufflé certaines idées, inspirations ou choix que tu as pu avoir à travers cette expérience?
En soi, si tu veux, déjà le voyage en général, c'est une excellente manière de prendre du recul sur toi, en fait, de mieux te connaître, d'apprendre, de repousser tes limites, d'apprendre sur toi, en fait. Ouais. Et c'est comme ça que ça m'a guidée, en fait. Je savais pas comment dire. Je pensais pas autant apprendre sur moi durant le service. Okay. Quand je me disais, bon, bah, quand tu pars en tour du monde, en sac à dos, forcément que tu apprends sur toi, tu vois. Que là, ouais, j'avais quand même un cadre, j'étais tranquille et tout. Enfin, c'était comme ma vie en France,
ouais,
mais aux États-Unis, tu vois. Il ouais, y a juste la distance avec tes proches. Et en soi, j'ai quand même vachement appris sur moi et c'était impressionnant. Je pensais pas, tu vois.
Qu'est-ce que
tu
as appris sur toi?
C'est dur, hein. Comme ça,
ah bah
là,
on est là, on est, attention, moi je suis là pour poser des questions qui sont un peu compliquées, sinon c'est chiant, hein, l'été les loisirs, hein, j'ai envie de dire.
Je pense, tu vois, j'ai fait un peu une rétrospective de comment j'agis dans certaines situations, comment okay, je gère certaines situations. Je pense que c'est plutôt ça, tu vois, que un truc genre, ah, oh, j'ai appris ça sur moi.
Okay.
C'est vraiment genre des situations ou des sentiments, pourquoi je suis comme ça des fois, ah bah tiens, c'est peut-être pour ça. Enfin, c'était plus ouais, dans ce sens-là que j'ai appris. C'est pas genre.
Est-ce qu'il y avait justement des situations où tu savais que t'allais réagir d'une certaine façon et maintenant tu t'as évolué, tu réagis d'une autre? T'as des exemples là-dessus où tu dis putain, ça là-dessus j'ai vraiment évolué?
Non, j'arrive pas à trouver d'exemple là comme ça.
Mais tu sens que ça, mais tu sens que ça a eu un impact profond quand même.
Quand même, ouais, okay, je le sens.
Alors, maintenant qu'on en connaît un peu plus quand même sur le service civique que tu nous as décrit en long, en large et en travers de façon très documentalisée et personnalisée, j'aimerais que tu me racontes un peu l'histoire, comment c'est passé là-bas. Parce que c'est au States, c'est en Caroline du Sud, c'est un endroit que les Français connaissent quand même très très peu, à part pour les fans de basket qui savent que c'est Michael Jordan qui vient de là-bas, de cette région-là. Si tu veux, les gens, et que c'est un état quand même qui à la base est plutôt... pro-raciste quand même pendant encore très très longtemps. Maintenant ça a évolué, mais ça l'a longtemps été. C'est des états sudistes, c'est pas ce qui ressort aujourd'hui, mais c'est j'aimerais que tu nous racontes, tu vois, comme si c'est ton histoire, comme si tu racontais ton histoire à des potes, en commençant par, bah écoute, je suis arrivé à l'aéroport et là tu nous racontes l'histoire.
Je me suis fait arrêter aux douanes.
Non, direct.
Ah oui, je sors de l'avion et genre là, bah, grosse bouffée de chaleur parce que c'est à Charleston, il fait très chaud et très humide.
Okay.
Donc, tu rentres, t'es un peu, t'es genre étouffé, tu wow. Ensuite, j'arrive. Et genre là, aux États-Unis, ils ont la mauvaise idée de mettre genre 20 caddies pour poser tes bagages, tu vois, 20 chariots.
Ouais.
Pas plus. Donc, moi qui suis en classe économique et qui suis dans les dernières places, bah, forcément, j'ai aucun truc. Ouais. Sauf que j'ai quoi? Une énorme valise, une deuxième valise qui a une roue pétée et un sac à dos.
Toi, tu es en train de trafiquer un truc, tu ramènes des marchandises.
Voilà, c'est ça, tu vois. Non, mais genre, j'étais là, je fais, mais les gars, j'ai genre, je suis toute seule, j'ai trois valises pour moi, genre, comment je vais faire pour juste atteindre les douanes? Genre, comment je vais faire? C'est déjà genre le parcours de la mort. Et ensuite, après, j'arrive aux douanes et tout, genre là, je commence à stresser parce qu'ils connaissent pas mon type de visa. Heureusement,
non, mais déjà, ils te voient et t'arrêtent direct, en fait. T'as une tête de coupable, en fait, c'est ça.
C'est ça.
Ok.
Et ensuite, du coup, heureusement, j'avais la lettre d'invitation du maire de Charleston.
Ah, alors ça, pour le coup, c'est genre, écoute, mec, me casse pas les couilles, regarde qui c'est qui vient de m'écrire cette petite lettre. hop. Et ça a aidé ou quand tu l'as montré, c'était bon ou ils ont quand même fait chier?
Bah, en fait, ils m'ont... En fait, sur la lettre d'invitation, t'avais une date, en gros, je finissais en juin. Et okay. Moi, j'avais prévu de repartir début août, parce que j'avais prévu de partir à Green Cove en tant qu'animatrice pour refaire en fait l'expérience que j'avais eue il y a 2 ans et 4 ans.
Okay.
J'avais envie de retourner dans ce camp-là.
Ouais, quand
et
ouais.
Donc forcément, j'avais pas commencé mon application pour ça, enfin mon inscription, tu vois, j'avais rien fait ni rien. Donc en fait, ils m'ont arrêté, ils m'ont mis dans le truc de douane pour me dire, bah, il y a un problème avec les dates. Genre, sur la lettre, c'est marqué que tu repars en juin. Et genre là, toi, tu me dis, tu pars en août, tu vois.
Ouais.
Donc, j'ai fait « Ouais !» Donc, ils m'ont arrêté pour ça et tout. Et au final, c'est bien passé parce qu'avec le deuxième agent, il a appelé Robin, du coup, la dame qui m'est passée et tout.
Ah,
donc, ça a été... Puis, t'avais un représentant du maire de l'autre côté et tout. Donc, ça a été, tu vois, mais j'avais trop, trop peur. Je dis, ah, je fais « Mais si ça se trouve, je repars. » Genre, je prends un avion et je repars, genre, demain matin. Alors que j'étais fatiguée, j'arrive à 23h et tout. Je fais « Non, les gars, s'il vous plaît, non !»
Alors, j'imagine très bien dans quel état tu étais. Et alors ça, c'est petit tip pour tous ceux qui prennent l'avion. Et on espère, il y en aura de moins en moins, même si je suis un grand coupable de cette pratique. Il faut absolument à chaque fois... Alors quand vous allez en voyage, vous êtes professeur ou vous êtes commerçant. Voilà, c'est tout. Ça ne fait pas de vague. Ils vous emmerdent jamais avec cette profession. Vous êtes tout le temps c'est professeur ou vendeur ou commerçant. Voilà. Ça, c'est une chose. Ensuite, il faut toujours mettre une adresse dans les petits trucs. Souvent, dans les avions, ils vous donnent un espèce de papier à remplir. Au-delà même des visas, c'est une espèce de papier à remplir de quand tu arrives, où est-ce que tu repars, et mettre toujours une adresse. Même si tu dis que tu n'en sais rien de ton adresse parce que tu vas à l'arrache, tu vas en sac à dos, avant de monter dans ton putain d'avion, tu te démerdes pour trouver une adresse d'une auberge, d'un hôtel, dans ce que tu veux, et tu le notes. Parce que si tu notes un truc, même pourri, tu t'en fous, tu y vas pas, ça passe comme une lettre à la poste, il regarde rien. Par contre, s'il voit des cases qui sont vides ou des choses qui ne correspondent pas, là, c'est direct, tu passes à la douane, voilà, tu passes à l'interrogatoire. Donc, c'est le petit truc, en fait, qui, quand tu prends 5 minutes pour bien faire correspondre les dates, parce qu'au final, tu aurais pu dire, bah non, je repars, ton billet d'avion, il n'était pas en août, si ?
Si.
Ah, ton billet d'avion était en août. Donc, il fallait que tu aies un espèce de... Ouais, il fallait que tu aies une espèce de justificatif en fait qui prouvait que, au pire, une réservation d'hôtel, tu fais une fausse réservation d'hôtel 6 mois à l'avance, tu peux l'annuler. Et tu dis que tu restes 2 mois en tant que touriste ou un truc comme ça en fait. Mais c'est important en fait de juste justifier. Si tu justifies, tu dis bah en fait, j'ai envie de prendre un hôtel et de visiter, bah, ils vont dire ah ok, parce que ça t'as le droit en fait. Mais en fait, s'il y a un flou, s'ils n'ont pas l'info, ils vont te saouler. Voilà, c'était la petite parenthèse pour tous ceux qui prennent à la légère le passage de douane et les petites feuilles à remplir. Ça peut être très vite comme ça peut être très chiant.
Et je te rajoute aussi à cette petite parenthèse.
Vas-y.
C'est qu'en fait, mon vol, c'était Paris-Londres et Londres-Charleston. C'était un vol direct sur Charleston. Donc, ça a été genre la grosse chance parce que si j'étais bloquée à Miami... Ça aurait été vraiment la merde parce que je suis à 6 heures de Charleston, tu vois, en voiture. Et il n'y avait pas de représentant. Et là, ils étaient à, genre la porte d'à côté. Il y avait juste à ouvrir la porte, ils étaient là, tu vois.
Ah ouais.
Donc, beaucoup plus simple pour l'entrée aux douanes. Donc, faire les vols directs, c'est genre 10 fois plus simple.
Au cas où, ok.
Ouais.
Ça aurait été plus... Ouais, j'imagine. Ok. Donc, t'arrives, tu lâches un petit pot de vin au douanier, donc. et tu t'en vas. Comment ça s'est passé après? Raconte.
Bah, ensuite, la famille est venue me chercher. On est rentrés et tout. Et puis, le lendemain, ça a été se remettre du décalage horaire. J'ai eu un rendez-vous avec le maire de Charleston.
Direct.
Ah ouais, direct.
Il y a combien d'habitants à Charleston? Attends, on dirait que c'est un village. J'ai l'impression que tu vas lui claquer la bise comme ça, là.
Non, t'as genre 500 000 habitants dans toute la zone. Non, c'est assez grand, ouais. Okay. T'as une assez grande superficie.
Apparemment, t'es influente. Ok, tu pèses dans le game à Charleston,
ouais,
très bien.
Ça, totalement. Okay. Non, mais voilà, et après, ça a été un peu quand même la découverte de la ville. En fait, si tu as plusieurs parties, tu as vraiment le centre-ville de Charleston qui fait un peu une...
Alors, je te recoupe tout de suite parce que j'ai regardé... Quand tu m'as dit je suis à la Charleston, va regarder, c'est beau. Effectivement, je ne connaissais pas. Est-ce qu'on peut passer en mode réalité virtuelle? Tous ceux qui nous écoutent mettent leur casque et toi, tu dresses le décor.
Yes. Du coup, en fait, quand on arrive à Charleston, c'est vraiment une ville unique aux États-Unis. Il n'y en a pas de pareil. Vraiment, vraiment.
Ok, on sent que tu n'es pas du tout chauvine. Ok, très bien.
Tu arrives et en fait, c'est que des maisons très, très coloniales du fait de son passé et de son histoire. Charleston, ça a été le premier port à malheureusement apporter les esclaves. Ça représentait 40% du flux d'arrivées aux États-Unis.
Ah donc, ouais.
C'est vraiment le plus gros port.
Ah, tu vois, quand je disais qu'il y avait un petit passif, je pensais pas que c'était à ce point-là. Ok, non, ok.
Ah si. Et en fait, ce qu'ils ont. Donc, Charleston, dans le centre-ville, tu as beaucoup de grosses maisons hyper imposantes. T'es là, tu fais ah ouais, quand même.
Espèce de maison un peu bourgeoise avec des grandes colonnades, ces choses comme ça.
Ouais, ah, okay. Totalement, totalement. Et très coloré. Tu peux en avoir des roses, des oranges, des verts. Enfin, c'est vraiment plein de couleurs de partout, mais c'est quand même bien harmonisé. Tu vois, c'est pas genre comment du vert à côté d'un truc qui va pas avec du vert. Tu vois, non, c'est assez bien harmonisé et tout.
Ouais, ouais.
Et en fait, bah, ces maisons-là, c'était des anciennes maisons d'exploitants d'esclaves ou d'exploitants de coton ou d'exploitants de choses comme ça, en fait.
Ouais,
donc,
des
gros riches.
C'est ce qu'a fait la richesse de ces gens-là et c'est ce qui fait qu'ils ont, quand tu arrives dans le centre, tu as un espèce de... finalement, c'est les États-Unis qu'on connaît pas trop ou qui n'existe plus vraiment. C'est le vieux centre un peu colonial avec des belles maisons en bois bien sculptées alors que ça se voit plus trop, c'est assez rare. Enfin, tu vois, je crois qu'il y a aussi Nouvelle-Orléans qui a, bon, ils ont morflé, mais c'était un peu dans ce style-là. Mais c'est un peu ça, quoi. C'est la maison coloniale que tu vois un peu. Genre, est-ce que c'est la maison un peu style comme dans Forrest Gump, dans l'Alabama, un peu la grande maison coloniale.
Un peu.
C'est ce style-là. Ouais. Mais coloré dans le centre.
Style-là. Ça, on va dire, ce style-là, c'est plus genre à l'extérieur de Charleston où tu vas plus avoir les plantations.
Okay.
Mais vraiment, l'intérieur de Charleston, c'est très, très structuré. T'as vraiment les maisons très coloniales, très grosses, imposantes, surtout vers la baie, en fait. Charleston, ça fait un peu un V. Enfin, le centre-ville de Charleston, ça fait un V qui se jette vers la mer.
Ouais.
Et du coup, vraiment, au niveau de la baie, là, t'as des énormes maisons, genre impressionnantes. Tu fais « wow !» Et vraiment très belles. Et...
Ça reste du coup assez. C'est le petit centre tout mignon qui est aujourd'hui super bien préservé, c'est ça? Ou.
C'est ça.
Ok, d'accord, c'est ça.
En fait, dès genre les années 50, 70, en gros, je crois que tu as une base navale et tout à côté de Charleston, et puis elle a été fermée, et donc du coup, ça a eu une grosse perte au niveau économique, et donc du coup, le maire s'est dit bon, on va se concentrer aussi sur le tourisme, tu vois, sur plusieurs.
On n'a plus l'esclavage, on n'a plus les militaires, merde, alors là, vraiment, c'est chiant quand même. Hein.
Et du coup, en fait, ils ont fait tout pour préserver ce côté authentique et rustique de la ville, tu vois, genre, et colonial, parce que bah, ça se détruisait au fur et à mesure. New York, enfin, tu vois, t'avais toutes les nouvelles villes qui commençaient à arriver et les grands gratte-ciel et tout.
Ouais.
Et eux, ils ont fait, bah non, on protège. Donc, c'est-à-dire tous les bâtiments qui datent de plus des années qui sont. Qui
avant
ont été construits
50,
avant les 1970, interdiction de détruire l'extérieur, tu vois.
Ok.
Donc, laisse l'extérieur tel quel et tout. Du coup, c'est vachement intéressant au niveau de cette préservation parce que ça permet de mieux raconter l'histoire.
Ouais, bien sûr.
De mieux comprendre et de mieux se mettre dedans, tu vois.
Surtout sur un pays qui est vraiment en mal d'histoire parce que tout est récent, en fait. Les églises, elles ont 100 ans, 120 ans. Enfin, tu vois, je pense que même dans le tourisme intra-américain, ça doit clairement dépayser les Américains de voir un truc aussi typique, aussi à l'ancienne, et que bah un Européen qui va là-bas aussi, ça lui fait un peu revivre l'espèce d'Amérique d'antan. Mais justement, j'aimerais que tu vois qu'on éclaircisse ce sujet ou pour qu'on le close rapidement. Mais c'est est-ce que cet esprit juste qu'on peut connaître aussi dans le sud des États-Unis très white power, etc. Donc je traduis, c'est plutôt très on aime bien les gens blancs, on aime un peu moins les gens colorés qui se passe beaucoup aux États-Unis dans certaines parties de certains états. Est-ce que tu l'as senti là-bas ou est-ce que finalement ça a quand même beaucoup évolué?
Ça a beaucoup évolué. Franchement, à Charleston, c'est pas du tout de mon ressenti, tu vois,
c'est pas
du tout je trouve pas ça une ville vraiment raciste ni rien, tu vois. Là, ils sont en train de construire justement un musée exprès pour comment l'histoire des Noirs.
Enfin, ah ouais, okay.
Tu vois, c'est genre vraiment hyper ouvert et ça fait, on va dire, 50-50, tu vois. Je pense que t'as 50% de la population, elle est noire, 50% de la population, elle est blanche.
Ouais.
Et franchement, tout se passe bien à Charleston. Déjà, le sud des États-Unis, c'est ultra accueillant, je trouve.
Okay.
Mais alors, Charleston, encore plus. Genre,
tu es
dans le bus et tu vas parler avec ton voisin d'à côté. Ou même chose, tu vas faire tes courses et la caissière va demander comment tu vas, genre, enfin... C'est vraiment genre tout le temps comme ça, des discussions qui se lancent, mais genre bref, mais genre, c'est vraiment trop bien, t'es ultra accueillant.
Et du coup, tu confirmes que peu importe à la communauté auquel tu t'adresses, que résumé blanc noir c'est pas forcément ce que j'aime, c'est afro-américain, ancien colon européen, hispanique et chinois, il y en a plein, enfin, et mais peu importe à la communauté à laquelle, l'ethnie ou l'origine à laquelle tu, c'est plutôt les communautés qu'on appelle ça aux États-Unis, mais tu t'adresses, t'es vraiment, il y a pas de ok, t'es pas de ma communauté, je te parle vraiment du coin de l'œil, c'est vraiment peu importe, on est à la cool quoi.
Non, oui, je trouve pas. Après, bien sûr, tu vois, t'as toujours quand même, malheureusement aux États-Unis, ces différences sociales où la communauté afro-américaine a de moins bons jobs que la communauté blanche.
Ouais, je vois.
Donc forcément, ceux que tu vas voir le plus facilement au niveau des caissiers et choses comme ça va être des personnes noires, tu vois. Ouais. Et ça, c'est genre un peu dommage, je trouve, mais c'est les États-Unis. C'est quasiment comme ça partout parce que c'est cette différenciation sociale qui existe, malheureusement.
Surtout malheureusement, et on espère que ça va vite évoluer, on espère que ça va vite changer. Enfin, c'est pas avec le président qui a la tête que ça va... Ça, mais... non, mais c'est... Tu vois, c'est con, mais c'est vrai que... Bah, grosse pensée pour toute la communauté afro-américaine parce que t'es dans ton pays et en fait, tu souffres, c'est ouf de souffrir du racisme dans son propre pays, comme il peut y avoir aussi en France. Hein. Et surtout d'être. En fait, t'as l'impression que ça revient à être comme en Inde, où là, ils sont. En fait, c'est un système de caste. Et en fait, là, c'est même plus à quoi tu ressembles. C'est juste, t'es né de telle famille à tel endroit, tu restes dans une caste, et peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu pourras quasiment pas en bouger. Mais au final, ça revient un peu au même aux États-Unis. Et je trouve ça fort de la part des Afro-Américains, justement, d'être. Voilà, d'essayer d'avancer, enfin, d'essayer de retourner le truc. Et tant mieux si, comme tu dis, ben, toi, en plus, en tant que Française qui vient découvrir une culture et un pays, donc t'es pas là pour révolutionner les choses, ben, au final, c'est plutôt cool, en fait. Enfin, les gens, ils t'accueillent bien, et que t'as une bonne ambiance, et qu'il fait beau, et que c'est. Parce que c'est aussi ça qui est bien dans les études des États-Unis, c'est qu'il fait beau. On va pas se le cacher.
Totalement.
Donc voilà, c'était une petite parenthèse, mais qui est importante parce que c'est pas un sujet, non, c'est un sujet qui est omniprésent aux États-Unis. Et qui et je me demandais comment tu le palpais toi entre guillemets au quotidien en tant que visiteur, parce qu'évidemment c'est pas la même chose, surtout si toi en plus t'es une petite babtou comme moi à la peau claire. Mais c'est intéressant de comprendre que il y a certaines subtilités dans ce pays qui sont encore clairement omniprésentes, même si on essaie de faire évoluer les choses et on espère que ça évoluera très rapidement. Donc là t'arrives. Je reviens un peu sur notre petite histoire. T'arrives, t'as vu le maire, t'as claqué la bise au maire, salut, merci, c'était sympa pour mon contrat, tu te souviens de la cuite qu'on a pris ensemble en France, ok, bien. qu'est-ce qui s'est passé après ?
Bah ensuite, du coup, j'ai un peu visité la ville avec Robin, du coup, celle qui m'hébergeait, et voilà, elle me disait ça. Alors au début, j'étais perdue, j'ai fait, mais attends, là, je suis où ? Est-ce que je suis sur cette... Mais c'est quoi ça ? Mais je comprends pas où je suis, tu vois, j'étais complètement perdue.
Ouais.
Et après, je restais un peu plus... comment chez eux, donc eux ils habitent à environ 10 minutes du centre-ville de Charleston sur West Ashley, et West Ashley garde quand même toujours cette idée de maison très coloniale et tout, et voilà, enfin si tu veux, j'étais la maison en face, t'as genre une sorte de marécage avec toutes les plantes qui ressortent, des fois quand il fait marée haute, bah t'as la mer qui monte, genre tu te réveilles le matin et tu vois ça et tu fais ah ouais.
Donc il y a quand même... T'as la nature qui est quand même assez omniprésente, qui touche la ville en fait, à travers les marais, la mer. Ah ouais, putain, ça va être.
Ouais, totalement. Genre, franchement, tu fais 10 minutes et bah, après, moi j'étais dans un quartier résidentiel, tu vois, c'est des quartiers résidentiels, mais t'as quand même la mer qui est juste à côté. Enfin, ouais. Charleston, c'est vraiment au bord de la mer, t'as la rivière qui arrive juste à côté, tu fais 20 minutes, t'arrives à Charleston Landing Point qui est. Là où il y a 350 ans, parce que Charleston fête ses 350 ans cette année, où sont arrivés les premiers colons anglais, je crois. Et donc, tu fais 20 minutes et tu arrives à ce point-là. Tu vois, tu as pas mal de parcs un peu partout. Donc, non, en soi, c'est vraiment genre hyper beau.
Et j'aimerais que tu... Si cette aventure, c'était un film et qu'il fallait que tu fasses trois bandes-annonces pour faire la promotion de ce film... C'est quoi les trois grands moments que tu ferais, les trois grandes bandes annonces que tu ferais pour vendre un peu cette aventure, les trois moments qui t'ont marqué ou qui peuvent représenter un peu cette aventure, parce que c'est pas forcément les plus marquants, mais certains sont très symboliques. C'est quoi que tu nous, de quoi tu nous parlerais? Bande annonce numéro 1, qu'est-ce que ce serait?
Alors, bande annonce numéro 1, elle existe déjà. C'est celle de Outer Banks, qui est pas mal populaire en ce moment sur Netflix. Okay. Et en fait, les îles de Outer Banks, c'est juste au-dessus de Charleston. Et on va dire au niveau du paysage, genre marais, rivières et tout, c'est le même type, tu vois. Donc,
Ok.
juste pour avoir l'idée du paysage, c'est ça.
Waterbank, c'est une série qui a lieu là-bas, en fait, ça? Sur Netflix.
Ouais, je crois qu'elle passe je crois qu'elle s'est passée sur Charleston. Je sais
Ok.
plus où exactement ils l'ont tourné, mais voilà, c'est Outer Banks.
Ok. Mais moi, je voudrais savoir les petites bandes annonces sur ton histoire à toi, en fait, tu vois? C'est ça que je voulais dire. Que tu me donnes des petites anecdotes, en fait, ou des petits passages de cette aventure que de plusieurs mois qui vraiment t'ont marqué et symbolisent vraiment cette aventure.
Tu veux une anecdote assez
Ah bah
marrante?
bien sûr que je veux.
Ok, donc je suis arrivée un dimanche soir et le vendredi d'après, donc dans ma famille, il y avait deux ados avec moi, dont un de 17 ans, et jouait au football américain, forcément, tu vois, gros cliché. Et donc du coup, je suis allée voir mon premier match de foot américain le vendredi juste après mon arrivée. Et une fois le match terminé et tout, genre on ressort, tu vois, donc des
Ouais.
gradins, tout ça. Et genre là, t'as un mec, mais complètement stupide, il a genre, tu sais, son genre tambour dans les marches qui sont en fer, tu vois, dans les gradins. Et donc, du coup, ça fait un gros bam! Et genre là, tu vois 100 lycéens qui courent d'un côté.
Non.
Ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'issue. Et là, après, t'en as 400 qui reviennent vers toi, tu fais, oh putain. Et en fait, ils ont tous cru que c'était, ça, c'est malheureux. Franchement, ça m'a un peu attristée, tu vois. Genre, ils
Vache.
ont tous cru que c'était
Un
quelqu'un qui
gun.
avait tiré. Ah ouais, mais c'est impressionnant comment ils sont, genre, comment
Ouais, c'est en fait ils sont en fait ça switch parce que ça...
stigmatisés par ça.
Ouais,
Enfin,
bien sûr,
genre,
c'est stig...
c'est tout
exactement,
le
c'est
temps.
stigmatisé, si tu sais que ça peut arriver, c'est pas juste un genre tout va bien et d'un moment à l'autre, y a un mec qui peut arriver et commencer à dégommer tout le monde. Ah ouais.
C'est
Genre le
ça.
mec a fait tomber son tambour, il y a 400 personnes qui ont commencé à déguerpir dans tous les sens.
Ouais, et en plus, juste avant dans la voiture, j'aurais bien fait. Alors, tu sais, on est aux États-Unis, tu vois. Genre, il pourrait y avoir ça. S'il y a ça, tu cours là-bas, je connais quelqu'un, on passe par la forêt et je t'emmène, t'inquiète. Genre, je sais, enfin, on avait notre petit plan pour partir, tu vois. M'a juste dit briefé, tu vois, genre comme ça. Elle m'a
Avant
dit, genre,
l'événement, genre bon,
c'est
on va avoir
pas.
un match de football américain. Par contre, si un mec qui commence à ouvrir le feu, bon bah voilà, tu prends la petite sortie à droite, moi je te rejoins là, tranquille. Ouais, moi je dis ça en général quand on se perd avec un pote, tu vois, c'est ok.
Non, mais c'est un peu ça, tu vois, dans ce sens-là, où genre juste pour qu'elle me prévienne que c'est pas comme en France où, bah, tu sais, en France, t'as pas besoin de
Ouais.
d'aller sur un match de foot et te dire, attends, faut que je regarde tous mes issues, tu vois. Aux États-Unis, tu le fais un peu plus, on va dire, parce que, bah, il peut toujours y avoir ça. En plus, ce soir-là, il y avait une rumeur de quelqu'un qui allait chuter, machin et
Ah ouais.
tout. Bref, ouais, ils ont dû ouvrir, genre, toutes les portes pour que tout le monde puisse sortir et tout. Les policiers, ils étaient là, ils font, mais qu'est-ce qui se passe, genre, c'est quoi et tout. Et moi, je regarde le policier, je suis, mais en fait, c'est rien, c'est juste un mec qui a fait tomber son
Son tambour.
tambour, tu vois.
Ouais, bah je pense qu'il était content le policier d'entendre ça. Attends.
Ouais. Et
Est-ce qu'il y a d'autres franchement pas mal anecdotes à la fois marrantes et un peu tristes très tristes mais est-ce qu'il y a d'autres anecdotes comme ça qui t'ont marqué sur le fait de je sais pas un moment que t'as vécu où tu dis, putain, je suis vraiment. C'est chambé d'être là, en fait.
Pour Noël, mes parents ils sont venus avec mon frère genre à Charleston
Ouais.
et donc du coup on s'est réunis avec les deux familles. Donc on a passé juste un super Noël, tu vois, c'était plein de cadeaux partout pour tout le monde et tout, donc c'était vraiment trop cool, tu vois, genre
Super empathique,
enfin on
ouais,
a
d'accord, ouais.
passé avec des familles qui se connaissent pas du tout, mais on a passé genre un Noël super ensemble. Et après donc nous on est partis retourner à Green Cove pour que mes parents puissent voir le camp où j'étais les 2 années.
Ouais.
Et ensuite, on est redescendu à Hilton Head, qui est une île à 2 heures de Charleston. Et en fait, la famille chez qui j'habitais avait un appart là-bas et tout. Donc, du coup, on est allé chez eux et tout. Et un matin, on s'est levé et là, tu vois un lever de soleil, mais juste magnifique. Tu vois, tu te lèves à 6h30 parce que c'est la nuit, enfin, c'est l'hiver, pardon. Et t'arrives et tu fais, mais waouh, tu vois, t'as toutes les lumières qui montent autour au fur et à mesure. Franchement, c'était trop beau. Même si on avait froid aux pieds, mais c'était vraiment genre, super beau.
C'est vrai que dans cette région-là des États-Unis, il y a vraiment des. Vu qu'il y a pas mal d'humidité aussi, avec les marais et la mer qui se mélangent, il y a pas mal de couleurs qui sont assez folles au lever et coucher de soleil.
Totalement.
Il y a un thème que j'aborde pas toujours, parce que des fois, je me dis que c'est pas forcément pertinent, mais 19 ans, t'es parti combien de mois aux États-Unis, tu m'as dit?
Du coup, je devais partir 9 mois.
Ouais.
Et enfin non, au début, en septembre, je devais partir 11 mois.
Ouais.
retourner que début août en France. Sauf que comme je n'avais pas le bon visa, bah, du coup, je ne pouvais pas faire Green Co parce que je ne pouvais pas être payée. Donc, je
Okay.
ne pouvais pas être animatrice. Donc, déjà, ça me réduit à 9 mois. Et du coup, du fait du coronavirus, je suis rentrée le 22 mars avec un des derniers avions en me disant, mais j'ai pas envie de rester bloquée en juin aux États-Unis parce que j'ai d'autres choses à faire. Enfin, voilà quoi, j'ai pas vraiment envie d'être bloquée. Du coup,
Combien? Lâche-moi un chiffre.
6 mois, je suis restée
Six
là
mois, ok,
actuellement,
six
six
mois, ok, six
mois aux
mois.
États-Unis, ouais.
Et justement, en 6 mois, à 19 ans, on part à l'autre bout du monde, bon, même si tu as une visite à Noël, est-ce que des fois tu t'es senti seul ou tu as senti la distance ou que ça a été dur moralement?
On va dire, j'avais pas trop cette peur. Parce qu'en fait, quand j'avais 14 ans, je suis partie
Ah, il
seule.
y a une différence entre ne pas avoir peur et sur le terrain. Parce que si tu me dis qu'à 14 ans, t'es parti et du coup, t'as eu un peu cet entraînement, est-ce que tu l'as quand même ressenti cette fois?
Non.
Non,
On va
ok.
dire, genre,
Ok.
les 15 jours avant, forcément, tu es là, tu fais, ah, oh, j'ai envie de rester avec mes amis, j'ai envie de rester avec ma famille, tu vois, ah, oh, c'est plutôt cool en fait de rester en France, genre, pourquoi je pars? Enfin, qu'est-ce
Ah,
que
ok.
j'ai pour
Ah, c'est
rester là, tu
d'accord.
vois.
Ok.
Mais c'est, on va dire, à chaque voyage, c'est quasiment comme ça, quand tu pars loin, longtemps. Je
Ouais.
pense que c'est toujours un peu comme ça. Ça t'as pas eu ça quand t'es parti faire ton tour du monde? Tu t'es
Non, non,
dit,
je,
non?
non, j'étais, non, je pense j'étais dans le flow, j'étais dopé en fait, j'étais
Ouais, je
dopé,
vois.
tu vois, je voulais pas rentrer. Au contraire, quand je suis rentré, je suis ok, c'est le moment de rentrer. En fait, je m'étais conditionné que c'était un an et je voulais en profiter chaque seconde. J'ai pas eu
Ouais.
ça. Et après, moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire aussi, qui aime toujours être avec du monde, mais j'aime bien avoir ce côté-là, donc je pense que ça aide. Il y a des gens qui aiment pas se
Ouais.
retrouver seuls, tu vois. Ça
Non, moi
compte
ça me
aussi.
gêne pas, tu vois. Donc en soi, c'était juste les 15 jours où tu dis dans quoi je me suis lancée, mais tu sais que tu as envie de le faire et tu sais que tu vas pas passer à côté de cette opportunité. Mais des fois tu te dis, ah non, mais je suis bien ici en France quand même, on est plutôt pas
Ah, c'est
mal,
avant le départ, hein. Mais une fois
hein.
sur place, t'as pas eu. T'étais toujours entouré, t'avais toujours de quoi. Enfin, en même temps, t'avais ton job, donc t'étais toujours stimulé. T'as pas eu cet effet de manque que certains peuvent. Bon, certains peuvent avoir peur, hein.
J'ai eu quand même genre des petits moments où tu vas pas forcément bien,
Ok.
surtout à l'arrivée de l'hiver, tu vois, genre novembre et tout, forcément pendant
Ça,
une
c'est tout le
semaine ou
monde.
deux, tu vois, j'étais là, je fais bah ouais, genre ma famille me manque, mon copain me manque, tu vois, tout ça, mais en soi, tu passes vite à autre chose parce que t'as ton train-train de la journée et tout ça, mais des fois ça peut être dur, oui, mais en soi, j'étais préparée à ça, j'avais déjà eu deux expériences auparavant où j'étais partie seule et où justement j'avais eu ce choc de 3 jours où tu veux repartir à la maison, là je l'ai pas eu en
Ah,
fait.
ok. Ouais, t'as vu ce petit training à 14 ans qui t'avait fait me dire, bon, allez, vas-y, maintenant, arrête de déconner, on va
C'est
au-delà.
ça. C'est ça.
Trois petites questions pour finir ce podcast.
Yes.
Si t'avais un conseil, enfin, plutôt l'inverse, si les gens qui nous écoutent, qui ont à peu près dans tes environs d'âge, de ta tranche d'âge, donc 18-25, je dirais, s'ils étaient obligés d'écouter un conseil que tu avais à leur donner par rapport à l'expérience que tu peux avoir en voyage et au service civique, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil s'ils étaient obligés de suivre ce conseil?
Notre peur,
Ouais.
elle est dans notre mental en fait. Donc, dépasse ta peur et
Ouais.
juste fonce parce que tu vas avoir peut-être une des meilleures expériences de ta vie et que si tu la fais pas, bah dans 10 ans, tu vas le regretter.
J'aime beaucoup ce petit conseil. Avant dernière question, si je te file les clés de la DeLorean pour. Alors t'es peut-être un peu jeune, ça c'est les voitures qu'il y a dans Retour vers le futur.
Non, t'inquiète, je les ai vus, les trois.
Je te file les clés pour revivre un seul des moments que t'as vécu à Charleston. Ça serait lequel? Pouvoir revivre un seul moment, peu importe lequel.
On a plein.
Ah ouais, mais là c'est j'ai pas le temps, il n'y a pas tant de d'essence que
Si,
ça
si.
dans la DeLorean.
Je pense que quand je suis partie à Charleston, je suis aussi partie une semaine toute seule voir mes cousins qui habitent au Québec. Et là, j'ai réalisé un de mes rêves, c'était de faire du chien de traîneau. Donc, je pense que ce serait ce moment-là de le revivre. En plus, j'ai fait genre du chien de traîneau tout le long. C'était moi qui étais derrière mes chiens, en
Énorme.
fait. C'est moi qui ai conduit mes chiens tout le long. Donc ça, c'était ouf, tu vois. J'étais là,
Ce qui est fou, c'est que le souvenir que t'as de Charleston, c'est quand t'es allé au Canada pour aller faire du chien de traîneau. C'est
mais... Non,
magnifique.
mais sinon, Charleston, je sais pas, c'est
Non,
genre...
non,
Si,
non,
peut-être avec
c'est
ma...
exactement ça que je voulais. cette anecdote, elle est super importante parce que c'est ça que je veux faire comprendre aux gens, c'est que souvent quand on a un voyage, on a une destination principale, on a cet objectif principal, mais derrière, on vit des choses secondaires. Et c'est souvent ces opportunités, ces surprises secondaires qui font que le voyage, il est encore plus dingue. Et en fait, c'est ça qui est cool, c'est que tu, à la base, t'as l'air Charleston, c'est là où t'as passé tout ton temps, mais ça t'a permis, par un biais détourné, de pouvoir avoir accès à un truc qui te faisait encore plus rêver, qui était de faire le chien de traîneau au Québec.
Mais
donc, et tu vois, c'est ça qui est cool. Et en fait, c'est souvent ça qui est intéressant. C'est avoir une bonne raison, une bonne excuse d'aller faire quelque chose, mais tu sais qu'au fond, c'est faut comprendre que ça va pas être ça le plus fou. C'est que si tu arrives à t'enclencher pour aller créer ton projet et aller vers ton projet, en chemin, tu auras des opportunités bien plus ouf que ce que t'attendais même toi au départ, parce que tu les imaginais même pas, tu pensais même pas que ça allait arriver. Et c'est ça qui est chambé en fait dans le voyage. Donc tu vois, j'aime beaucoup cette anecdote. Dernière petite question par laquelle j'aime bien finir. Si tu devais résumer ce service civique en une citation, une punchline ou une phrase de ta création, ce serait laquelle ?
Je vais t'en donner deux.
Ah ok, la meuf a préparé quoi, très bien.
Je pense que la première ça va être genre « Vis tes rêves ».
Ok.
Parce que bah t'as qu'une vie clairement et si tu perds une année t'as qu'une vie et fais ce qui te plaît quoi. Et la deuxième ce serait déclenche ta chance parce que la chance elle arrive pas comme ça toute seule tu vois faut. Enfin si je suis partie aux États-Unis c'est parce que je suis allée démarcher auprès de cette personne là à la foire tu vois de Monty. Je suis allée les voir et c'est comme ça que c'est arrivé tu vois.
Et c'est ce que je disais, c'est t'as provoqué la chance, t'as provoqué ta réussite, et je trouve ça super intéressant de voir que à 19 ans, maintenant les gens ils commencent à comprendre que si tu veux des choses, faut pas attendre que ça vienne en fait. On est déjà vraiment gâté par notre style de vie, les moyens qu'on a à notre disposition, que ce soit technologique, que ce soit administratif, en étant français à notre niveau de vie. Les gars, il y a plus qu'à passer à l'action en fait. Enfin, quand je dis les gars, c'est les gars et les filles, la preuve, c'est allez-y quoi. Allez-y, c'est parce ça. Que, comme tu dis, Homme, c'est, t'as tout en main, t'as plus qu'à déclencher, t'es juste la gâchette. Mais la poudre, elle est déjà dans le barillet, et ça peut, tu peux tout faire péter, et dans la bonne façon, enfin, explose tes rêves, atteins-les, c'est, mais c'est il faut ce petit déclencheur. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Écoute, Ambre, je te remercie beaucoup d'avoir voulu partager cette expérience du service civique, qui est finalement une expérience qu'on connaît assez peu. Et je suis ravi d'avoir qu'on ait pu en faire la promotion, parce que tu en fais bien, tu es une bonne représentante du service civique. et apparemment, il y en a aussi plein en Europe, sur plein de choses différentes, sur plein de missions différentes. Donc allez vous renseigner, surtout si vous n'avez pas trop de thunes pour voyager. C'est une bonne façon de voyager en gagnant un peu d'argent et de pas en tout cas en dépenser beaucoup. Et d'apprendre et se mettre aussi dans un contexte professionnel, surtout si on est peut-être un peu paumé, on sait pas ce qu'on veut faire, ça aide parce que on va voyager, on va s'ouvrir l'esprit et on va peut-être un peu mieux comprendre ce qu'on veut dans notre vie future au niveau du boulot. Donc merci beaucoup pour ça, Ambre. Avant de nous quitter, avec grand plaisir. Avant de nous quitter, ça nous fait toujours plaisir à ceux qui interviennent sur ce podcast et à moi-même, les petites dédicaces en story. Évidemment, taguez-nous, montrez-nous quand est-ce que vous avez regardé le podcast, que ce soit sur votre chaise en plein soleil, en train de prendre l'apéro tranquille, en train de faire la vaisselle, en train de faire un footing, en train de peu importe. Faites-nous une dédicace, ça nous fera toujours très plaisir. Et puis si aussi au détour, vous pouvez mettre un petit vote sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles, et ça fera que booster la visibilité de ce podcast si vous l'aimez bien. Voilà. Je te fais des gros bisous, Ambre. Je te remercie beaucoup. Et je te souhaite une bonne suite et j'espère que tu auras tes concours, comme ça tu auras le choix de choisir ce que tu veux faire après. Ça marche ?
Merci beaucoup, salut.
Ciao, bye.